Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Nous étions dans la science-fiction la semaine dernière. Eh bien, aujourd'hui, la science-fiction et la réalité vont se rejoindre. Alors, vous allez comprendre pourquoi et dans quelle mesure. Nous allons partager un album qui est le troisième d'une maison d'édition qui est née il y a peu de temps, je crois 2 ans. Les éditions Demann, je pense qu'on peut prononcer comme ça parce que l'un des fondateurs s'appelle Laurent Hopman et ça tombe bien parce qu'il est présent pour cette parution, accompagné par Renaud Roche qui, lui, j'ai découvert, a collaboré sur Tu mourras moins bête. Vous savez, cette série avec Marion Montaigne que nous aimons beaucoup. Alors là, on est dans un style graphique qui est complètement différent de Tu mourras moins bête. On est... je veux dire, à mi-chemin entre le comics et la bande dessinée européenne. Un beau mi-chemin pour un album. Alors, au départ, on était un petit peu circonspect et après s'être plongé dedans, carrément enthousiaste.
Ah, c'est addictif.
Oui, absolument. Il s'agit des guerres, ou plus exactement, de l'album Les guerres de Lucas, ou Lucas. On va prononcer un petit peu à l'américaine parce que ça va vous aider à savoir de qui il s'agit. On se téléporte, Thierry ?
On fait un voyage dans le temps, un grand classique parmi les thèmes de la science-fiction. Bon, en 1977, j'ai 14 ans, je ne vous cache rien. Je vais au cinéma avec des copains. Un film nous intrigue, il s'appelle Star Wars. On ressort de là soufflé. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu l'équivalent. Il y avait très peu de films de science-fiction fantastique à l'époque. Aucun qui soit aussi drôle, parce que dans la chronologie des parutions à l'écran...
Le numéro 4, quoi.
Voilà, il est très très drôle. Les effets spéciaux sont quand même assez soufflants. La bataille finale est extraordinaire. Les robots, je me souviens très bien que quand R2-D2 apparaissait sur l'écran, toute la salle était pliée derrière. C'était magique. On n'avait jamais vu l'équivalent, la première apparition de Dark Vador. Et la musique de John Williams.
La musique. Alors, je m'arrête là deux secondes, Thierry. Parce que moi, j'habitais de l'autre côté de la planète à cette époque. Et je ne crois pas qu'il y ait eu une salle de cinéma pour projeter Star Wars là où je me trouvais. Par contre, je suis revenu en vacances l'été 77, ici, en France métropolitaine. Et il se trouve que j'avais un cousin qui revenait, lui, des États-Unis. Et qui a vanté les mérites de Star Wars et de sa musique exceptionnelle. Et donc, ce que j'ai exigé de mes parents pour Noël, c'était d'avoir ce fameux album. Je l'ai un peu usé, malheureusement, j'aurais dû le garder sous ses lots, parce que je pense qu'aujourd'hui, il vaudrait son pesant de cacahuètes. Voilà pour l'anecdote.
Ah ben, c'est très touchant, c'est très émouvant. C'est dire que Star Wars, le premier sur les écrans, nous a changé en profondeur. Les guerres de Lucas, c'est l'occasion d'évoquer le parcours, la prime jeunesse et les débuts professionnels de George Lucas, qui est un homme, je ne connaissais pas du tout sa personnalité. C'est un écolier introverti, plutôt mal à l'aise avec l'environnement, avec l'éducation traditionnelle, qui s'évade en regardant les séries télé de science-fiction déjà, dans la littérature, les pulps, puisqu'on en parlait la semaine dernière. C'est quelqu'un qui a un imaginaire très fort pour lutter contre l'ennui et le conformisme de ses parents. C'est quelqu'un qui a failli ne jamais nous donner toutes ses merveilles, parce qu'il était fou de voitures de course. Et il avait une auto Bianchina qu'il avait customisée en sciant de toit, en mettant un arceau. Il filait à tombeau ouvert sur les routes.
Ça fait rêver parce que les auto Bianchi, oui. Moi aussi, j'en ai eu envie.
Et il a eu un terrible accident. Il a très peu de choses. Il aurait pu mourir. C'est quelqu'un qui va s'évader, qui va trouver sa voie, son oxygène même, je pourrais dire, par le cinéma. Parce qu'il présentait des symptômes d'autisme. Je ne suis pas médecin, mais on retrouve beaucoup de choses dans son comportement, dans sa façon de travailler, sa difficulté à s'ouvrir aux autres, sa fragilité, et en même temps son talent immense. Avec ses amis Francis Ford Coppola et Steven Spielberg, quand même sacré triumvirat. Hein.
Ouais, c'est pas rien.
Ceux qui vont dynamiter le cinéma américain, ils vont inventer, c'est la nouvelle génération d'Hollywood, ils vont inventer un nouveau cinéma auquel ne croient pas du tout les financiers en costume gris. C'est 3 personnalités très différentes. Hein. On parle de Lucas qui est un peu mal à l'aise, inadapté social à la limite. Alors que Coppola, c'est son double inversé, c'est l'ogre. C'est extraverti, occupant tout l'espace sonore et visuel quand il entre dans une pièce.
Comme vous dites, qui dévore tout, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Et Spielberg, le copain cool.
C'est un peu entre les deux. C'est le type doué, sérieux, gentil, parfait. Ils vont collaborer activement les uns avec les autres au début. George Lucas, lui... après des débuts assez difficiles. Je brosse à grands traits parce que c'est extrêmement bien raconté dans ce livre, en détail et avec beaucoup d'émotions. Par exemple, sa rencontre avec sa première femme, qui va être un pilier de sa création.
C'est qui joue un rôle clé dans Star Wars, hein, ça c'est clair.
Alors, dans l'écriture, parce qu'on ne nous cache rien l'élaboration de ce qui sera Star Wars. Mais avant Star Wars, il y a eu un premier court-métrage, Labyrinthe, un court-métrage d'anticipation, qui va être racheté par une puissante maison de production, qui va devenir un film que je vous encourage à voir si vous ne l'avez pas vu, qui s'appelle THX 1138, la vision d'un futur glacé, mécanisé, où il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus que des machines. Même l'image est quasiment surexposée, on est dans un enfer blanc. C'est un film qui va avoir beaucoup de retentissement, qui va bien marcher très correctement au box-office, qui va surtout débloquer de l'argent pour un autre projet qui, lui, va avoir un énorme succès, c'est American Graffiti.
Avec un certain Harrison Ford.
Oui, voilà. C'est l'apparition d'un mythe, parce qu'on peut dire que cet acteur est un mythe. Hein. C'est une star. C'est en même temps, c'est un comédien, c'est en même temps, c'est une star. American Graffiti, qui est dans la nostalgie aussi, le divertissement, les pattes, la jeunesse, etc., etc. Mais le projet de fond de George Lucas, c'est de révolutionner le cinéma de science-fiction. Et là, on se rend compte à quel point il va tout inventer avec sa société Industrial Light and Magic, ILM. Il va trouver les fonds pour commencer à travailler sur ce qui va devenir Star Wars. Alors, on ne nous épargne rien des projets successifs du scénario. Donc, on voit que l'histoire a beaucoup évolué, énormément changé, que Marcia Phillips, sa compagne et sa future femme, c'est un couple un peu comme Hitchcock. Alfred et puis sa femme, c'était vraiment un couple de créateurs. La femme d'Hitchcock, Alma, était dans l'ombre et Marcia Phillips est restée d'une certaine façon dans l'ombre.
Alors qu'elle avait du caractère.
Oula, c'est quelqu'un qui allait au front. On nous épargne rien des multiples avanies tout au long de l'écriture et puis du début de la réalisation du premier Star Wars, des revers financiers, de la méfiance généralisée des producteurs en disant « qu'est-ce que c'est que ce film ?» Le scénario est... Je vous épargne les commentaires très grossiers de ceux qui sont censés distinguer ce qui va être un succès ou pas. Donc on dit que c'est un scénario impossible, que les premiers rushs, ça ne ressemble à rien, ça va être un échec, personne n'ira voir ce film. Certaines personnes dans les maisons de production vont continuer d'y croire. Spielberg, en passant, remonte le moral de son ami George en lui disant « mais si, il faut persévérer, tu vas révolutionner le cinéma, tu vas voir, il faut accroche-toi ». Il y a toutes les anecdotes de tournage de ces grands films, de ces super productions, avec évidemment les tempêtes, les inondations, les effets spéciaux qui ratent. Et un conflit de génération aussi, alors on en parlait par rapport du côté artistique, mais du côté technique aussi, parce qu'il y a une grande partie du film qui est tournée en Angleterre, et là, Lucas a affaire à des techniciens anglais qui sont clairement d'un autre temps. Quoi. Il regarde ces Américains un peu foufou, avec un œil très, très méprisant, on peut le dire.
Le thé, c'est important, il faut faire la pause.
Le thé et la royauté.
Bon, ceci dit, Alec Guinness, lui, est très, très sympathique.
Alors, par contre, dans le premier Star Wars, il y a deux acteurs anglais, Peter Cushing, le Henry Fonda du cinéma fantasy, et Alec Guinness, c'est un trésor du cinéma anglais. 40 films, un Oscar, une gentillesse, une attention et beaucoup d'humour, l'humour anglais, parce qu'il adore mettre en boîte George Lucas, il prend tout à fait au sérieux, au premier degré. Alec Guinness se rend compte aussi qu'il meurt au milieu du film. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça me chiffonne quand même. À la fin, il aurait été convaincu que oui, c'était la meilleure façon de rendre son personnage immortel. Bref, un tournage à haute densité émotionnelle et des choix d'acteurs. Alors, parce que maintenant, on considère tout à fait normal le choix des acteurs, mais George Lucas ne voulait pas reprendre des acteurs d'American Graffiti. Or, il y avait Harrison Ford. Il passe des bouts d'essai pour La Guerre des Étoiles. Et tout le monde dit à Lucas, mais il est génial. Et puis, surtout... Carrie Fisher, un peu fille de saltimbanque, fille de comédien, d'artiste. Toute jeune, elle a 15 ans, avec une détermination de fer. Et Mark Hamill, qui est un peu le Candide. C'est un trio qui fonctionne immédiatement. Quand ils font des essais, qu'ils parlent entre eux, le courant passe tout de suite. Alors, c'est eux qu'il faut choisir, c'est eux, mais c'est obligatoire. Les histoires d'amour entre Harrison Ford, qui est pourtant marié, et Carrie Fisher.
Ah, bravo.
Oui, bravo, c'est du sérieux. Oh, c'est le cinéma. C'est le cinéma et en même temps, Harrison Ford a été un, je dirais pas le détonateur, il l'a pas changé en profondeur, Carrie Fisher, il l'a encouragé à prendre son destin en main. C'est celui qui sera aussi Indiana Jones.
Parce que Indiana Jones arrive là.
Et oui, Indiana Jones arrive. Mais avant Indiana Jones, c'est Star Wars. Et Star Wars, ça a failli se faire, là encore, sans Harrison Ford, pas seulement parce qu'il était acteur dans American Graffiti, mais parce qu'il y a un certain Christopher Walken qui aurait dû jouer son rôle. Alors Walken, c'est un immense acteur, mais plus sombre, plus tourmenté, alors que Harrison Ford, il est solaire. C'était lui qu'il fallait. Harrison Ford qui a failli ne pas jouer Indiana Jones. C'était Tom Selleck. Il y a eu des bouts d'essai, le contrat a été signé. Bref, Harrison Ford a été un remplaçant de luxe dans deux séries mythiques au cinéma.
C'est plutôt réussi.
Alors, ce film, personne n'y croit. Sa maison de production le sort dans 32 salles en une misère. Hein. George Lucas se dit, c'est un enterrement de première classe. Ils sont dans la rue avec sa femme, puis ils voient un attroupement devant un cinéma.
Qu'est-ce qui se passe?
Et Marcia lui dit, c'est peut-être pour Star Wars. Il dit, non, il ne voulait pas le sortir dans le Chinese Theater. Il s'approche, puis il dit, mais oui. Ils l'ont programmé dans le cinéma, les gens font la queue, et plus encore, le bouche à oreille est tellement phénoménal qu'ils reviennent le voir et ils sont obligés de réserver des places pour. Ah, j'ai deux fauteuils pour dimanche. Voulez-vous? Oui. Voilà, le phénomène est en marche, la célébrité, la richesse, et puis le mythe est en train de se construire.
Honnêtement, j'en ai des frissons. On a l'impression de vous avoir raconté toute l'histoire, mais oui. À travers cet album qui est très richement documenté, d'ailleurs, qui renvoie à toute une série d'ouvrages, vous avez de quoi faire. On assiste, pour moi, à quelqu'un qui est extrêmement réservé, mais qui veut aller jusqu'au bout de ce en quoi il croit. Et ça, je trouve ça très, très fort. Moi, ça m'a remué, en fait, ce bouquin.
C'est un homme très émouvant. Alors, il est insupportable, irritant au dernier degré. Mais on sent qu'il a une lumière qui brille au fond de lui. Il a un talent fou. Il a un potentiel créateur phénoménal. Il va être épaulé par des amis artistes qui croient en lui. C'est un destin étonnant. Et puis, pour l'amateur de musique que je suis, il y a une séquence très émouvante dans l'album. C'est quand, pour la première, Steven Spielberg lui dit, pour ta musique, fais appel à John Williams. Il a écrit la musique de Jaws. Les Dents de la Mer. Tu vas voir. La première séance d'enregistrement, John Williams dirige le London Symphony Orchestra devant George Lucas et lui dit « J'espère que vous allez aimer. »
C'est une révélation.
On n'entend pas la musique en lisant l'album, mais si on l'entend, avec les fameux thèmes, etc. etc. C'est la musique qui donne la dimension, la touche supplémentaire, la touche d'immortalité à ce qui est sur la pellicule, quoi.
Alors, pour ma part, j'ai véritablement découvert les films Star Wars 20 ans après leur sortie. Quand il y a eu la ressortie, justement, du premier, quatrième. Je pense que ce que nous sommes en train de partager avec vous, auditeurs, c'est pas du radotage, mais que c'est un film qui parle encore aujourd'hui parce qu'il traverse toute une série de choses. On est loin de vous avoir raconté le tout. Il y a toute une série de références qui sont liées à la littérature, etc., etc. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais vous l'avez compris, ça nous incite à vous dire, une fois de plus, lisez cette bande dessinée. Ça vaut vraiment le détour parce que je trouve que le dessinateur comme le scénariste ont vraiment réalisé un tour de force, là.
Oui, c'est extrêmement bien écrit, c'est prenant. Ça fait partie de ces livres qu'on lit d'une traite. On l'ouvre, on ne décroche plus.
Les guerres de Lucas, aux éditions Deman, D-E-M-A-N, à découvrir absolument, et peut-être même qu'il y aura une suite de Laurent Hopman et Renaud Roche, incontournable. Merci beaucoup Thierry, et puis on se retrouve, j'espère, pour des lectures enthousiasmantes encore la semaine prochaine. À bientôt.